balance un direct. Tu m'énerves.
T'as tout le temps regardé la télé, tes matchs de foot là. Oh, j'en peux plus là. Tu es littéralement ventousé devant ton écran à regarder toute cette espèce de barbare qui court après la balle.
Des barbares ?
Oui, ce sont des barbares.
Des beaux athlètes comme ça ?
Ah, d'accord, je vois ce qui t'intéresse. Hein ? Évidemment. Hein, c'est la fête des corps.
Attention, je vous interromps, c'est parti, c'est un départ qui... Oh là là.
Aïe, que se passe-t-il? Serait-ce à nouveau Satan d'imite?
Je crois qu'après avoir vu ça, on peut mourir tranquille, enfin le plus tard possible, mais on peut.
Voilà. Donc, ça, on va en l'air.
Quel pied. Ah, quel pied. Oh putain. Oh là 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 là.
Eh bien, bien le bonjour à toutes et tous et bienvenue dans Ta Mère en Short, l'émission consacrée au sport, principalement local mais aussi régional, voire national et international. Émission exclusivement d'Esportes sur le 102.4 FM. Et pour ce faire, nous sommes bien sûr accompagnés du bras droit, du bras gauche, du pied droit, de l'orteil gauche de cette émission en la personne de Guy Moquet. Bonjour à toi, camarade.
Ouais, aujourd'hui, ce sera plutôt deux pieds gauche.
Deux pieds gauche. Nous aurons aussi bien sûr la connaissance et la pratique volleyballistique, mais pas que, de monsieur Guillaume de Pickup. Bonjour à toi, Guillaume.
Salut tout le monde.
Et puis la fine plume des journaux locaux, hein, de leur info La Dépêche, et qui est le Phil Guinchard, qui est bien sûr dans les studios présentement. Bonjour à toi, Philippe.
Ouais, ça fait 20 minutes que je suis là, je pense en avoir
marre. Ouais. Il arrive comme une fleur, comme une star, avec ses lunettes de soleil. Il est beau.
En short et en chemise hawaïenne, hein, si vous voulez un descriptif total. C'est même pour vrai, même pas vrai qu'il a dit. Voilà qui est dit, voilà qui est fait. Alors nous, vous savez, hein, on va brosser un petit peu les actualités locales. On va bien sûr parler de volleyball. Nous allons aborder aussi le rugby, un rendez-vous important ce week-end. Nous allons aborder l'actualité aller mystique, puisque Phil Laguinche était samedi à la salle Omnisport. Vendredi, étais-tu présent toi aussi, Guillaume, par hasard?
Non,
j'ai suivi ça moi en live texte et j'ai eu la chance d'avoir un éclairage plus saignant via texto de l'ami Phil d'ailleurs. On va développer, on va y revenir dans quelques instants. Nous parlerons et nous aurons quelques résultats locaux forcément. Hein, on suit le FC 27, sont-ils toujours premiers, ont-ils gagné encore? On le saura dans quelques instants. En attendant, le traditionnel tour de table, des choses qui vous ont marqué, du coup de gueule ou du coup de sang, ou au contraire de la chose positive que vous avez notée, messieurs, durant la semaine passée, même voire les 15 jours, puisque c'est vrai que lundi dernier, il n'y avait point émission. On commence par Guillaume.
Allez, ça tombe bien, il n'y avait pas émission, mais moi j'ai suivi un peu le hockey sur glace, il n'y avait plus les Dragons, mais on a quand même fini ce championnat de Ligue Magnus. Malheureusement, ils avaient retiré un match de plus sur l'équipe 21. On avait le droit au streaming pourri sur l'équipe.fr, mais il y a eu au moins les trois derniers matchs, il me semble. Et alors que Gap était mené dans la série, il me semble 3-1, je crois qu'ils étaient menés 3-1, mais finalement ils ont fini par remporter au meilleur des 16 matchs, 4-3 la série. Et c'était des fort beaux matchs. Et
Gap Épinal en finale.
Gap Épinal, effectivement. Donc si vous le souvenez, donc c'est le Gameo d'Épinal et les Rapaces de Gap. Et donc ça fait deuxième titre. Bah oui, vous aimez bien les noms.
Ah, j'aime bien.
Ça. Et deuxième titre d'affilée pour Luciano Basile, le coach qui avait été champion avec Briançon l'année dernière. Et donc il a emmené quelques joueurs avec lui à Gap cette année, notamment Teddy Trabichet qui est MVP de la finale. Et voilà, c'est une victoire méritée. Épinal était un peu à court physiquement sur ce que j'ai vu.
Parce que beaucoup de matchs, ils avaient joué dans les tours précédents des confrontations qui les emmenaient au septième match souvent.
C'est-à-dire qu'Épinal était classé huitième, donc ils ont eu un tour de plus, alors que Gap était troisième. Donc ils ont eu ce fameux tour au début. Pré-playoff en fait, et donc du coup ils avaient plus de matchs dans les pattes, mais c'était quand même une belle équipe concoctée par Philippe Bozon aussi, et faudra surveiller ça encore l'année prochaine je pense du côté d'Épinal. Et côté Dragons de Rouen, pendant qu'on y est aussi, c'est Lenry, l'ancien gardien que j'annonçais qu'il allait prendre sa retraite, un de ses quatre, bon il avait fait une année de plus quand même, et qui devient coach en fait. Il arrête comme gardien, il devient coach, et pour l'instant pas beaucoup de transferts du côté des Dragons de Rouen.
Je trouve ça bien que ce soit des clubs comme Gap ou Briançon, que en patinage artistique, ce soit des clubs des Alpes qui gagnent.
Patinage artistique.
C'est-à-dire qu'avant, tu avais une hégémonie de Rouen, Amiens et des clubs des Alpes, en fait, et maintenant, tu te rends compte que c'est ouvert.
Bah, le hockey, c'est un mélange de rugby, de patinage artistique, en gros.
Ouais, pour faire simple, sauf qu'ils ont plus qu'un
avec des pagaies.
Oui, avec des pagaies.
Et un peu de curling. Aussi, ouais.
Les plaquages sont plus sanctionnés qu'en NHL.
Ouais, et puis ils ont autre chose qu'un simple protège-dents comme protection, quoi. Ils ont quand même un casque et tout ça, quoi.
Ouais, avant, au début du hockey, non, il n'y avait pas, hein. Même les gardiens n'avaient pas de masque.
Ce sont devenus des fillettes, c'est ça que tu veux nous dire?
Bah, c'est-à-dire qu'avec les accidents qu'il y a eu, au bout d'un moment, ils ont décidé de mettre quelques protections en plus.
Bien vu en tout cas de mettre
CHSCT qui s'est installé dans le dans le monde du hockey.
Petite dernière chose, en ce moment il y a le championnat du monde féminin avec l'équipe de France qui se déroule à Rouen.
Défaite hier 5-6 contre Finlande ou Norvège.
Ouais, Finlande ou Norvège, donc ça peut paraître normal, mais en tout cas c'est aussi intéressant le hockey féminin. Il y a moins de mises en échec justement et ça fait plus de jeux. J'en avais vu à la télé une fois et donc si vous pouvez aller faire un tour, c'est toute la semaine je crois jusqu'au week-end prochain.
Bien vu.
À quand une patinoire à Évreux.
À quand une patinoire à Évreux.
Il n'y avait pas eu une en face de la mairie.
Oui,
actuellement, il y en a toujours.
J'avais essayé d'y aller avec la combinaison et tout, et ça marchait pas. Les gamins n'étaient pas d'accord.
Et je me souviens quand on était petit, on mettait des chaussettes parce qu'on n'avait pas tous des gants. On mettait des chaussettes en protection pour pas se faire couper les doigts par les patins. Ouais, c'était quand l'époque du centre de loisirs quoi.
Voilà, c'est magnifique.
Phil, quelque chose depuis 15 jours qui t'a marqué, qui t'a...
Quelque chose qui m'a marqué, j'ai vu pas mal de petits trucs. J'ai vu un beau Paris-Roubaix hier là, qui était assez sympa, où il y a pas mal d'animation sous le soleil et tout ça, c'était assez chouette, avec une arrivée malheureusement au sprint qui se joue dans le vélodrome et tout ça, qui est moins passionnante que les petites échappées de dernière minute là, qui étaient pas mal. Non, pas eu grand chose d'exceptionnel. Je suis un peu énervé contre l'arbitrage par rapport à Marseille.
Oh non, c'était mon coup de gueule.
Ouais, je suis un peu énervé parce que je trouve que ils ont une équipe qui pour une fois qui est attrayante, où justement il y a un coach qui ne se la ramène pas et qui critique jamais l'arbitrage. Et ça, je trouve ça quand même vachement bien. Et malheureusement, ça ne paye pas du tout parce qu'ils se font enfler assez souvent. Et pourtant, je suis pas plus Marseille que Paris ou que foot déjà à la base. Mais je trouve que c'est dommage quand tu vois ça qu'ils aient pas plus de.
Alors pour compléter ton propos, pardon, hein, mais c'est vrai que la veille il y avait eu une finale de la Coupe de la Ligue où il y a un fait de jeu qui est très similaire. Qui est même peut-être moins marqué.
C'est deux erreurs d'arbitrage, parce que la première ne nécessite pas. Je pense qu'il peut y avoir un pénalty, mais il n'y a pas de carton rouge.
C'est pas le dernier défenseur.
Et l'autre chose, c'est au moins le pénalty, voire peut-être même le carton rouge, si on peut considérer que c'est. Mais je pense que sur
déjà,
ce carton rouge,
on aurait été
sévère, parce qu'il y a quand même cette manie de plongée.
Et donc dit et redit aujourd'hui, mesdames et messieurs, dames, je veux pas être redondant, mais c'est vrai que voilà, à quand la vidéo pour de vrai ? Parce que là, ça devient du grand n'importe quoi. Je crois personnellement de moins en moins dans la nature simple, traditionnelle, humaine, objective dans ce sport à haut niveau. D'ailleurs, les arbitres arborer un t-shirt, moins de violence pour les arbitres. Et ça, je défends totalement parce que je sais que dans les petits districts, dans le foot amateur, c'est un scandale. Sauf qu'à un moment donné, montrer l'exemple là-haut aussi. Je suis scandalisé. Moi, clairement scandalisé.
C'était juste pour revenir sur les déclarations d'après-match. L'arbitre aurait dit à Alessandrini, donc le joueur qui est victime de la faute, qu'il glisse. Mais monsieur, vous glissez. C'est pour compléter le scandale quoi.
Au niveau de l'arbitrage, on s'en rend compte même au basket hein, qu'on voit régulièrement. Il y a un vrai problème par rapport au rugby. Par exemple, pour le rugby, c'est quand même beaucoup plus carré. La vidéo est rentrée. Il y a un respect ça fait partie de la culture du rugby, mais il y a un énorme respect par rapport au directeur de jeu et même aux deux juges de touche, qui sont des vrais assistants et qui interviennent vraiment sur le cours du jeu. Au basket, on a de très mauvais arbitrages, notamment en Pro B, depuis qu'il y a eu l'arbitrage qui est passé à 3 en Pro A et qui reste à 2 en Pro B. C'est complètement débile. Donc, il va falloir qu'un jour, on puisse harmoniser ça. Parce que quand tu as une ligue qui se dit ligue, voilà, il faut qu'elle soit uniforme. Et le problème, c'est qu'effectivement, après, ça redescend sur le circuit amateur. Et tant qu'on n'aura pas des arbitres qui sont des acteurs du jeu, donc il faudrait qu'ils soient professionnels, parce que dans un sport professionnel, il faut que les arbitres soient professionnels, pour qu'ils puissent avoir une certaine assurance, une certaine prestance et aussi un dialogue, pouvoir instaurer un dialogue et ne pas parler comme quand tu les entends parler monsieur machin, ça ressemble à rien quoi.
C'est nul,
c'est ridicule, c'est obsolète et ça n'avance à rien. Donc ça, je pense qu'on va vraiment avoir un vrai problème. Et le premier problème
on a déjà un
voilà,
vrai problème.
Mais le premier problème qu'on rencontre, effectivement, c'est le fait que ça retombe au niveau amateur, alors qu'en amateur c'est des purs gens voilà, qui viennent et qui font leur mieux et qui n'ont pas tous les moyens qu'on a au niveau professionnel.
ça contrastait vachement avec ce que j'ai regardé comme, comme autre match de foot ce week-end en, en Première Ligue, donc en Angleterre, où il y avait un arbitre, alors je me souviens plus bien de la rencontre, quel match
professionnel, hein.
Ouais, oui, bah professionnel, ouais. Où il y avait une, tout à fait une autre méthode qu'on voit pas du tout en France, ou très très rarement, avec un arbitre souriant, qui prenait justement, tu faisais l'analogie avec le rugby, qui prenait le temps d'expliquer ses décisions, donc avec vraiment des, une dimension pédagogique, expliquer aux joueurs, bah voilà, là je vous sanctionne, voilà pourquoi, j'explique. Voilà, ce qui aussi permettrait, même en cas d'erreur d'arbitrage, alors après, le, voilà, il n'y a, a pas ce même respect chez, chez les footeux que chez les rugbyman quand une décision est prise. Je pense qu'en plus, il y a plein de décisions d'arbitrage prises au rugby qui sont tout à fait contestables. Toutes ces zones de combat, ces zones de ruck, même pour des professionnels, quand il y a Galtier ou d'autres anciens joueurs qui commentent, des fois, ils avouent eux-mêmes ne pas comprendre la décision de l'arbitre. Ils disent, bon, voilà, c'est obscur, sauf qu'il n'y a jamais personne qui conteste. Et du coup, il faudrait des arbitres qui expliquent davantage leurs décisions, même si elles sont pas bonnes, pour qu'au moins il y ait cette, ce respect.
On avait abordé la chose il y a trois semaines parce qu'il y avait un but refusé. Le ballon avait franchi la ligne contre Lyon avec soi-disant ces cinquième arbitres qui servent à rien, qui sont là, qui sont pas là.
Qui servent à rien. Et ça, c'est Platini en fait.
Faut m'expliquer pourquoi. Merci Michel. Pourquoi on ne met pas la vidéo? Bien je sûr. Pense qu'il y a des intérêts que nous ne maîtrisons pas. Je suis pas du tout dans la théorie de quoi que ce soit. Moi, qu'on se lave de toute chose ou toute approximation ou toute fausse idée. Sincèrement, par contre, je me pose des questions. Comme c'est le sport numéro un, comme c'est là où il y a très certainement les plus gros enjeux, les plus gros paris,
les plus grosses magouilles.
Peut-être bien. C'est vrai. C'est pas s'éloigner que ça. Les matchs truqués en Ligue 2 l'année dernière en France hein, avec Nîmes et je sais plus quelle équipe.
Quand
on a viré le président
et puis attends, c'est... les caisses de vin. Ouais, ouais. Moi, sincèrement, le match truqué là, je pense qu'on a peut-être un peu monté un épingle aussi parce que je pense que c'est plutôt une tentative d'arrangement du style. Bah voilà, on se la joue tranquille. C'est vrai que c'est un match tout pourri. J'ai des gens qui ont assisté, qui m'ont raconté que c'était un match où il y a eu un but et il y a eu un contre-but et après ça s'est arrêté de jouer. Mais c'était pour des bouteilles de pinard à 1,50€ quoi, tu vois, donc c'est quand même pas de la corruption quoi.
C'était pas non plus.
Il y a eu une jurisprudence Sir Alex Ferguson pour ça, parce que quand il y avait des matchs Manchester-Auxerre à l'époque de la grande époque d'Auxerre, il y avait des échanges de caisses de vin, il y avait aucune suspicion de corruption, voilà, c'était pour se faire plaisir, ils aimaient bien.
Ça fait suer.
Mais la jurisprudence elle existe déjà depuis, c'est ça la vidéo, depuis le coup de boule de
Zizou.
Et voilà. Et depuis ce jour-là, on n'a pas du tout appliqué
Maserati.
C'est Johnny qui avait dit ça sur un plateau de téléphone.
On va citer toutes les voitures italiennes du coup.
Donc non. Ça fait suer. En tout cas, c'est pas terrible quand même pour le sport. Et effectivement, comme tu le soulevais avant tout, il y a du beau jeu, il y a de l'envie, et puis c'est pas récompensé. Après, on peut pas très bien jouer ou bien jouer et puis perdre. C'est des choses qui arrivent, mais c'est vrai que c'est dommage quand c'est sur des faits de jeu qui sont pas mérités.
L'Angleterre est un exemple, parce que moi je me rappelle très bien avoir vu, je crois que c'était Gérard, qui est déjà plutôt un mec plutôt classieux quand même déjà à la base, et qui était allé serrer la main d'un arbitre, pas enfin, classieux. Si, c'est pas trop.
Pas dans les pubs quoi, mais.
Ouais.
C'est un anglais.
Ça fait partie aussi du gène anglais, qui est allé serrer la main d'un arbitre quand tu lui as filé le carton rouge. Tu fais ça en France, l'arbitre se sentirait agressé. Alors qu'en fait, là-bas, c'est un geste de courtoisie. J'accepte la sentence et je te serre la main. Je pense que c'est quand même bien plus classe. Et puis pareil, ça calme un peu toute la virulence qu'il peut y avoir autour.
Et puis les arbitres français, ils sont devenus comme ça au fur et à mesure des années. Moi, c'était pas comme ça quand j'étais gamin et que je regardais le foot. Hein. C'est aussi le manque de respect des joueurs qui a fait que les arbitres se sont mis une barrière comme ça où ils sont devenus au-dessus de tout le monde. C'est aussi une manière de se protéger très maladroite. Mais c'est vrai que moi, je trouve que maintenant, le nombre de joueurs qui vont râler pour la moindre chose...
Et puis on peut peut-être demander aussi maintenant, parce que très certainement que les salaires des arbitres professionnels, je ne les connais pas, sont quand même, somme toute, confortables, on peut aussi à un moment donné exiger une forme de pédagogie, ou en tout cas de mieux savoir parler, et donc peut-être d'officialisation, d'ouverture de micro, parce qu'il y a qu'est-ce qu'on a à cacher quand on est réglo, quand on est clean, quand on sait s'exprimer, on n'a rien à cacher, limite ce serait si les propos déformés d'un joueur... l'était vraiment, on l'entendrait. Du coup, s'ils étaient, par exemple, virulents ou incorrects ou totalement irrespectueux, ce qui est souvent le cas, au moins, comme ça, ça permettrait de les dédouaner, les arbitres. En attendant, au jour d'aujourd'hui, c'est toujours pas le cas, ça fait suer.
Je voulais juste rebondir aussi sur ce que tu disais, Philippe. Je pense qu'aussi, en championnat de France et plus largement des joueurs français, on manque de joueurs de classe. Comme Gerrard, comme Lampard, des joueurs comme Scholes, même comme Rooney, qui est, je pense, un sale type dans le fond parce que c'est une brute épaisse.
Même Zidane n'avait pas.
C'est un joueur extraordinaire avec une vraie classe. En équipe de France et tout simplement en championnat de France, les seuls joueurs qui ont un peu de classe, ce sont des étrangers. Je pense à Zlatan, etc., qui n'est pas le dernier à en mettre plein la tronche aux arbitres.
Classe, ça dépend sous quel angle.
Ouais. Non, mais qui a un charisme qui fait que tu t'adresses pas de la même façon à un joueur lambda. À Skilacci qui se fait sortir, le pauvre petit Bastiais, que tu t'adresses à Zlatan. Et d'un certain point de vue, c'est pas normal, mais c'est aussi ce qu'on peut déplorer. Ouais. Et moi, ce que je regrette, c'est que ce soit l'argent des Qataris qui fait arriver en France des joueurs de classe. C'est ce que je regrette. Tous nos joueurs de classe, quand il y en a eu, et pour moi, il n'y en a plus beaucoup en équipe de France, quand il y en a, ils ne sont pas dans le championnat de France.
Et je pense que ça, c'est l'argent qui détourne. Parce que c'est souvent des gamins qui arrivent des cités, de ces machins-là, mais qui sont très bien éduqués à la base. Hein, parce que faut quand même parler
dans les centres de formation.
Voilà, les de formation, ils sont super bien éduqués, ils sont très respectueux. Sauf qu'à un moment, tu arrives dans un monde de tigres. Et puis, je veux dire que là par contre, c'est l'argent qu'a loi. Et l'argent, ça te rend cinglé, ça te rend mal poli, ça te rend. Voilà. Et en parlant d'argent, je pense qu'il y a un truc aussi sur lequel il faut parler. Là, c'est le truc de Zlatan. Enfin, l'amendement Zlatan Payet, enfin, je ne sais pas sur les deux là, qui a fait que le PSG et l'OM
boycottent
dorénavant un truc, et ce que je trouve exceptionnel là-dessus, c'est que tu as la ligue qui est derrière. Enjoint Canal Plus d'arrêter de mettre des micros là où il n'y a pas lieu d'être, oui. Et qui sanctionne dans le même temps grâce à ces micros un fait qui n'a rien à voir. C'est un truc de schizophrène de première, c'est de l'hypocrisie, mais c'est le monde du foot.
Soit tu interdis les micros et tu sanctionnes pas, soit tu fais rien et tu sanctionnes.
Et puis il fallait surtout pas sanctionner, mais alors, franchement, ça c'est
débile.
Là c'est un côté, tiens, c'est un truc très populiste, très poujadiste, le côté pays de merde, bah oui, on a fait une merde, et puis voilà, c'est tout quoi, et puis ça s'arrête là.
C'est honteux de sanctionner ses propos en micro.
Surtout c'est un mec qui est énervé. Et puis c'est complètement ridicule. Et c'est bien d'avoir des mecs qui s'énervent encore plutôt que des gars qui avalent des couleurs.
Moi, ce que je regrette même par rapport à. Parce que Payet, c'est un peu moindre. Mais ce que je regrette par rapport à Zlatan, c'est qu'il n'y ait pas aussi. Parce que c'est Zlatan, un des membres du club, quel qu'il soit, un autre joueur, le président, l'entraîneur, qui viennent le calmer. Parce que Payet est énervé, sort frustré du terrain, il gueule. Ça, je le comprends. Zlatan s'est délibéré, il s'adresse au micro. Pour moi, c'est pas tout à fait la même façon de faire. Et je regrette juste qu'il n'y ait pas un mec du club. Et je pense que si ça avait été un Matuidi ou un autre qui aurait gueulé, il y aurait eu tout de suite quelqu'un pour venir le calmer. Mais parce que c'est Zlatan qui fait 2 mètres, qu'il est champion de kickboxing, on vient moins le titiller.
Tu m'excuseras, mais Payet, il est énervé, il sort du terrain, mais il voit quand même qu'il y a une caméra sur le côté.
Oui, alors, mais quand t'es énervé, il y a caméra, pas caméra.
Ouais, Zlatan
s'adresse à la caméra. Payet, il gueule.
Je suis d'accord avec Phil, il aurait dû y avoir sanction ni pour l'un, ni pour l'autre. C'est ridicule, tout le monde s'énerve en disant des insultes, en disant n'importe quoi.
Si tu n'aimes pas la France, quitte-la.
C'est vrai qu'on l'a dit pour certaines personnes qui étaient moins célèbres.
Mais ce truc-là, ça prouve encore que le football vit essentiellement sur des à côté, quoi. Vit pas vraiment, mais surtout le football en France ne vit pas. Alors qu'on a quand même de la chance pour l'instant d'avoir, depuis quelques années, d'avoir justement grâce à l'argent des Qataris, d'avoir un peu plus de beaux jeux, de matchs moins chiants qu'il y a quelques années. Et ben là, on se retrouve avec des trucs qui sont à côté, qui vont alimenter les chaînes d'infos continues pendant des heures et des heures, alors que c'est quand même pas l'info essentielle. Et quand on dit qu'on n'est pas un pays de sportifs, je pense que ça, c'est exactement l'illustration même.
Juste pour clôturer la page football.
Non, on continue, c'est un très vite.
J'ai vu pour le coup un super match en Angleterre, le derby mancunien, 4-1 pour United face à City. 4-2, oui, pardon, 4-2, ça s'est terminé sur 4-2. Et voilà, ça c'est le spectacle, ça c'est l'Angleterre. Et du coup, je sais pourquoi je préfère la première ligue au championnat de
et
France.
Arsenal est toujours dans la course aussi.
Non, mais attends, si tu mets les gardiens du niveau anglais en France, il y a des 6-1 à chaque match.
Si tu mets le niveau des attaquants, aussi en Angleterre.
Non, les gardiens, t'as de plus en plus de bons gardiens étrangers qui jouent à
Lloris. Je les aime pas, les
Lloris est blessé.
Je les aime pas, les Rosby.
Moi, je trouve que le foot, il y a que là que j'aime le foot.
Ah oui,
j'aime bien un peu en Allemagne parce que c'est vraiment offensif, mais là, au niveau.
You don't like cricket.
Et puis les Anglais, ils ne peuvent jamais les voir.
You don't like
cricket, man.
Le match d'hier où l'OM, après qu'ils aient pris le but, ça leur scie les pattes. En Angleterre, tu vois jamais ça. Quand Chelsea colle 3-0 à une équipe qui est déjà condamnée à la relégation, les mecs ils baissent pas les bras et ils arrivent à en mettre un.
Vous vous rappelez de Liverpool qui était remonté de 0-3 à 3-0 à 3-3, c'était un match extraordinaire.
Et quand même aussi en Allemagne, festival offensif et tout ça, t'as vu le but qu'a mis Lewandowski quand même avec le Bayern.
Magnifique.
Où il se l'emmène sur une aile de pigeon, reprise de volée dans la foulée, tout ça. Allez voir ça, c'est vachement beau.
Mon fils qui fait ça sur la.
Et franchement, là c'est pareil.
Allez, petite pause musicale qui va bien et on revient pour quelques résultats locaux, mesdames et messieurs, dames. Vous êtes bien sûr dans Ta Mère en Short et vous avez vu, on en a des choses à dire, à partager et à relever.
people to just be themselves. You're never going to succeed trying to be somebody different. Maybe you see somebody on TV or somebody in the hood that you respect, and that's cool, but you're never going to be better at being them than they are. So be yourself. I don't go to hell when I die, I might go to heaven.
And I should invest in a restoration. Start seeking the truth on a special investigation. Every time I do, I'm left with a question racing. When I die, do I have a definite destination? Returning to the source of the infinite information, or burning in the scorch of indefinite decimation? That's the question I'm facing. It's got me stressing and pacing. They tell me just focus on dead president chasing, until I'm a hospital bed resident patient. Just get money, then accept death and embrace it. Just get running the race with the rest of the nation. But everyone's on pills, depressed and impatient. There's gotta be more to life, am I destined to waste it? Heaven or hell, hard to tell, which direction I'm facing. So I'm seeking the truth till my last breath inhalation.
From the Streets, le nouveau projet de Mr. Green. Je vous invite grandement à vous pencher dessus. Voilà ce monsieur qui se baladait avec son enregistreur et nous, ça nous parle, nous, radio. Voilà, et qui allait choper des sons comme ça dans la rue de gens qui jouaient, qui des gens qui faisaient des bruits bizarres et qui, du coup, rentraient à la maison, faisaient des productions musicales avec et invitaient des copains à rapper dessus. Live from the Streets, ça fait juste 3 ans qu'on attend ce projet. Il vient enfin de sortir. Mr. Green, voilà, qui est dit, voilà qui est fait. On rentre dans le vif du sujet avec quelques résultats locaux. Monsieur Guimauquet, qu'est-ce que vous avez relevé, très cher ?
Eh ben moi, je me suis intéressé, une fois n'est pas coutume, au football avec notre fameuse poule de DH où est engagé le FC 27. J'ai 3 résultats importants à vous annoncer. On va commencer par le plus glorieux, évidemment. Le FC 27 s'est imposé 4-1 sur sa pelouse face à Mont-Sainte. Mont-Saint-Aignan, pardon.
Bien, bien, non, ça va bien.
Pas si sûr, dans le même temps, c'est également imposé à domicile 2-1 contre Lillebonne. Et le FC Rouen a fait de même 2-0 contre Frileuse.
C'est toujours serré, alors.
Exactement. Ouais, classement, je vous ai relevé les 3 premières équipes, qui sont donc les 3 que je viens de vous citer. Le FC 27 est toujours en tête avec 63 points. Le FC Rouen est 2e avec 60 points. Et Pas si sûr, 3e avec 57
rappelons,
points.
Rappelons pour Pas si sûr. Rappelons. Qui va jouer à Lillebonne, je crois, mais ils vont jouer le match retour, le match aller après le match retour, je crois, mais voilà, je crois que c'est le 11
mai. Rappelons aussi, je crois qu'à ce niveau...
Chute à l'arrière.
Ouais, chute à l'arrière. Rappelons qu'à ce niveau-là, la victoire vaut 4 points, le match nul 2 points et la défaite 1 point, il me semble.
Ouais, c'est ça.
Bien dit.
parce que on pourrait se dire que
petit texto tiens de Saint-Cé handball
champion
ouais champion
champion
exactement alors montée on le savait assurée, mais hein. Là c'est totalement assuré
bah, c'est
parce
super
que
champion, là.
La montée le titre de champion de Normandie ils ont lavé Rouen quand même à le dire coach Anthony ô combien important aussi prépondérant
plaisir,
dans ce titre on a lavé Rouen Université 36 à 19 avec une énorme prestation de Ronny Silva plus de 20 arrêts donc on imagine
le gardien,
que
le gardien,
19, le gardien ouais. Numéro 2
on l'avait mis en photo dans la dépêche il va être content comme ça, ça
bien vu pour couronner le tout la B de Saint-Cé Hand a gagné le droit d'évoluer en région la saison prochaine 3e, c'est la fête à Saint-Cé bravo 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 bravo
36 à 19 t'as dit
je crois que la fête c'est le samedi prochain je crois
lavé
non, c'était, non que... c'était samedi là. Je crois qu'ils ont fait la fête dès samedi. Il y avait une grosse fiesta prévue.
Mais ils n'arrêtent plus là. Hein.
Ouais, mais je pense que là.
Ils peuvent la faire.
Je ne sais pas comment on va les retrouver en National 3, mais.
Ouais, ils auront pris un ou deux kilos chacun.
8 kilos chacun, les joues toutes rouges. Ça promet.
Bravo, voilà qui est dit. J'ai pas de résultat de l'EAC Basket. Ils ne sont pas tombés. Je sais que la N3 pour son dernier match a pris 62
ouais,
points.
A pris cher, c'est
60 points, je crois.
Complet, aussi,
au, au ministère de la Défense. Alors c'est marrant quand même. Tu joues des finances. Ils jouaient contre le ministère des Finances qui a une équipe en N3. Ouais, ils ont pris 60
hein,
points hier,
joueur,
malheureusement.
Bon joueur, pas mal de joueurs.
Ça devait être payé ça comme match.
Ouais, je sais pas.
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Joli. On évoque le VB, très cher Guillaume de Pickup.
Ouais, donc c'était pas ce week-end, c'était il y a deux week-ends, mais vu qu'il n'y avait pas émission et qu'en plus, de toute façon, j'aurais pas été dispo. On fait ça cette semaine, donc le VB.
C'est pour ça d'ailleurs qu'il n'y a pas eu émission, c'est parce que tu n'étais pas dispo.
Il y avait les deux, il y avait les deux, ça tombait bien. Et en plus, ça ne jouait pas, donc ce week-end non plus. Donc EVB jouait contre Calais. Calais qui était l'équipe la plus abordable et mettre l'équipe à battre, je pense, dans cette poule. Elles l'ont emporté 3-1 assez facilement, même s'il y a eu un petit accro au troisième set où elles n'arrivent pas à concrétiser la balle de match. Et donc finalement Calais a quand même réussi à emporter le troisième set. Oliveira Souza a fait le boulot, 22 points. Guidi en a mis 16, Zanotto 15, donc ça a bien marché, en tout cas au niveau de l'attaque. Et de l'autre côté, il y a juste la jeune Anastasia Kouchouk qui est sortie du lot. Et aussi Clio, comment elle s'appelle, Erika Kliokmanaïté. Lituanienne comme on peut l'entendre donc en face il y avait quand même des absentes, il y avait deux absentes donc Bonacossi c'était la plus importante Sipic de notre côté je crois qu'elle est blessée jusqu'à la fin de la saison ouais, me semble-t-il
c'est la petite, Olinga qui
mais il y a la petite Olinga donc on sait pas si elle sera là jusqu'à la fin donc on l'a eu en interview, on passera sûrement ça mercredi en Bulle reportage, donc elle sait pas encore si elle sera sur les derniers matchs avec Évreux mais elle est bien efficace et elle est dans le 6 de départ quand même Olinga, elle avait fait un carton avant d'œuvre je crois
ouais.
Et donc bah, voilà au service on a carrément dominé. Donc elles ont eu énormément de problèmes en réception du côté de Calais.
On rappelle que c'était très faible en face hein. C'est quand même la plus
c'est
petite
pas très faible, mais c'est la plus mauvaise des équipes
la plus mauvaise ouais. Parce qu'elles sont 6e quand même sur le championnat ouais. dans les 6 équipes mais bon quand même sur les 7 qu'on gagne c'est 25-14 25-17 25-14 quoi. Donc c'est vraiment il n'y a pas eu trop de résistance
ouais, je pense que dans l'autre poule elle aurait peut-être été sous la barre de flottaison alors peut-être Albi par exemple je pense que c'était plus costaud
ouais voilà s'ils avaient été de notre côté c'est vrai qu'il y avait plus d'équipes faibles peut-être dans l'autre poule. Effectivement. Donc l'important c'est qu'on prend les 3 points déjà, parce qu'une victoire 3-1 ça fait 3 points. On s'est pas pris d'autres 7. Ça a fait jouer un petit peu tout le monde. Toutes les joueuses du côté de l'EVB ont pu.
Le président, l'aide-soigneur, le.
Et même moi, tu vois. et donc du coup, non, tout le monde a joué, même la libéro remplaçante aussi à un moment, parce qu'il y a un petit moment où Burmazovic a eu un petit coup de faiblesse, donc ouais. Il a fait rentrer Schoenauer, donc en troisième set. Et donc voilà, on a gagné ce match-là, le taf est fait. Et ce qui est bien, c'est que pendant ce temps-là, au niveau des résultats, donc Vendeuvre a été gagné à Chamalières, mais seulement 3-2, c'est-à-dire donc qu'elles ne prennent que 2 points, ouais. Et Chamalières donc 1 point. Et Quimper a été gagné
ouais,
à Mougins.
Ouais, ça c'est bien.
Et donc du coup, bel classement, bah, il se resserre fait. Un petit peu. Il se resserre un peu parce que donc Vendeuve se retrouve premier avec 13 points, Mougins et Quimper deuxième, troisième à 12 points et Chamalières-Évreux à 8 points, donc quatrième et cinquième. Donc là, ça se resserre. Donc évidemment, la victoire très essentielle à Quimper ce week-end. Faut à tout prix gagner pour continuer à espérer. Faut aussi qu'il y ait d'autres résultats un peu favorables pour nous des autres côtés, quoi. Mais donc du coup, là, il y a l'espoir est encore permis. Si elles vont jusqu'au bout et qu'elles essaient de tout gagner, normalement, il y a encore un espoir de monter au cas où. On verra
c'est
bien.
Quoi les autres matchs
y a alors, donc
Vendeuve
là,
Mougins,
ouais, ce week-end, Vendeuve contre ouais. Mougins, donc les deux premiers qui se jouent.
Voilà, donc là, ça va être intéressant de voir.
Très intéressant.
Ce qui serait bien, c'est qu'il y a un partage, il y a un 3-2 pour effectivement qu'il n'y ait pas.
Un 3-2, comme ça, ça ouais. Les fait pas trop monter. Et donc du coup si Évreux arrive à gagner par un gros écart, c'est-à-dire 3-1, il faut 3-1 pour avoir 3 points, on pourrait très bien remonter donc sur les premiers. calé par
contre. Sinon, par contre, je pense qu'on peut dire que si ça se passe pas bien avec Quimper, la deuxième partie des playoffs va être, à mon avis, plus accessoire parce que les trois premiers vont se détacher, que ce soit Vendôme, Mougins ou Quimper.
Ce sera à lutter pour savoir.
Quimper, c'est où? C'est quand?
Quimper, c'est ce week-end.
À Quimper.
Et ce sera le match de clôture.
Sur les terres de Monsieur Fouché.
Ouais. Sur les terres de Monsieur Fouché. Donc vous pourrez retrouver.
Je pense que la réception s'annonce intéressante.
Sympa.
Donc, vous pourrez retrouver donc mercredi les réactions de Lilia Dangléan, c'est la coach d'en face, d'Olivier Lardier, comme d'habitude, notre coach, et de Leandra Olinga, donc, qui est. Donc en ce moment, elle est licenciée à Évreux, mais en fait elle est à l'Institut français de volleyball, je crois, à Toulouse.
Ouais, c'est ça.
Et donc c'est en fait les jeunes espoirs. Il y a Koutchouk d'en face aussi qui est là-bas.
Ils appartiennent à un club, mais aussi à l'IVF.
Au pôle, genre, au pôle national. Ouais. Quoi.
Elles sont toujours elle est toujours licenciée à Évreux, Olinga, mais donc elle a fait ses études de volley et tout ça là-bas au pôle national. Et donc de temps en temps, elle peut retourner à Évreux pour jouer des matchs. Parce qu'il n'y a pas de championnat pour l'IFVB en fait.
Un très bon papier de Gonzalo d'ailleurs qui nous a fait dans la dépêche là sur.
La
sur
dépêche de vendredi.
Ouais, très bien.
Effectivement. Donc voilà, sur le volet, je pense qu'on a été assez complet là-dessus. Et puis, on se retrouvera au prochain match à domicile. Ce sera dans deux semaines cette fois-ci. Et ce sera contre. On avait joué qui en premier ? Contre Vendôme. Le prochain match, c'est contre Vendôme dans deux semaines. À domicile.
Ça peut être un gros match. Hein. Si Évreux fait un résultat à Quimper, ça peut être un gros match.
Ouais, ce sera bien. On verra ce qui restera au niveau classement et ce qu'on peut encore espérer. Ouais. Sur le rugby, quand même, aussi, il faut mentionner, parce qu'il y a le dernier match du rugby, là, de l'EAC Rugby.
Le fameux.
Alors ça va être très très tendu parce que donc Évreux joue contre Drancy, premier incontestable qui a pas lâché le morceau et qui continue à jouer tous ses matchs à fond.
Invaincu et invincible à mon avis.
Invaincu, invincible et pendant ce temps-là, l'Aigle qui est la seule équipe à pouvoir dépasser Évreux au classement encore joue à Marc-en-Barœul. Marc-en-Barœul, c'est le ventre mou du classement.
Donc plus rien à jouer.
Voilà.
C'est la fête du club là-bas à Marc-en-Barœul, donc on peut quand même supposer qu'ils vont être mobilisés. Sauf que l'équipe réserve joue sa place pour les phases finales dans le championnat B. Quoi, et donc on peut penser que les quelques titulaires vont descendre, ceux qui ne sont pas brûlés vont descendre en équipe B, donc ça risque de compliquer encore le match, et l'Aigle va être forcément motivé, donc je pense qu'on va vivre avec le match de Drancy avec un téléphone aux oreilles.
En dessous, la fête 3, on est repassé en région, c'est ça ?
On passera en honneur, ouais.
Ah, mince.
Ouais. L'honneur et le déshonneur, comme dirait Manolo, ça, c'est un peu ça, parce que c'est vrai qu'il y a une très grosse différence. Je ne pense pas que ça soit très inquiétant, parce qu'il n'y a pas une grosse. C'est régional, et je pense que Évreux est quand même au-dessus du lot et sera au-dessus du lot l'année prochaine.
Ah, on se projette pas.
Non, mais au cas où. Hein, au cas
on
où.
Verra
par
bien.
Par contre, on peut dire aussi déjà qu'une page va se tourner à l'issue de ce match. Il va y avoir beaucoup de changements au sein du club. On en parlera plus quand ça sera officiel. Il va y avoir des choses qui vont se dire cette semaine et voilà. Mais je pense qu'effectivement, ça va être un...
Rendez-vous ?
Donc, rendez-vous, c'est à 15h donc au stade Roger Rochard à Évreux. Donc, faut être le plus nombreux possible pour les encourager.
Journée du club aussi, hein, donc il y aura les minots, il y aura tous les...
Je crois que si on prenait un bonus, ça suffirait, il me semble.
Oui.
D'après ce que j'ai, ce que j'entendais. Parce qu'on
un bonus
4,
permettrait de passer au-dessus.
On aurait 4 points d'avance.
Ouais, c'est
on
sûr.
Aurait 4 points d'avance et au maximum.
Mais...
Donc, l'Aigle peut prendre 4 points maximum s'ils ont victoire plus bonus.
Sauf que l'Aigle...
Et en cas d'égalité, ça donnerait quoi ?
Je crois que l'Aigle a pris plus de points que nous en opposition parce qu'on n'aurait gagné que
les oppositions directes. 3 points là-bas.
Ouais,
et donc, du coup, donc si l'Aigle fait un résultat.
De toute façon, je pense qu'on aura du mal à choper un résultat positif parce que c'est
donc,
vraiment une grosse équipe.
C'est grosse équipe. Donc, si on a le bonus ou
tant
si
mieux.
On gagne, tant mieux. On aurait des espoirs. Après, si l'Aigle.
En 6, ça a l'air injouable.
Ça va jouer là-bas.
Si l'Aigle gagne avec bonus, de toute façon, ce serait mort.
En tout cas, c'est le moment d'aller à Lisieux, d'aller
utiliser
tous les recours vaudouistes ou rebouteuses ou possibles et inimaginables.
Mais l'Aigle,
la fameuse histoire. Tu mets un caleçon ou un short en fonction des réussites de tes matchs précédents. Tiens, je garde ce caleçon là parce que c'est le match que je portais celui-là le jour où on a gagné de 16 points. Voilà, tout ce que vous pouvez faire, vous le faites. Faites-le. Voilà. Rendez-vous à 15h dimanche à Roger Rochard. On sait jamais. On croise les doigts parce qu'on y tient ce club-là. Et il se bagarre et pas avec les mêmes moyens que les autres.
Quoi qu'il arrive, même s'il venait avoir un mauvais résultat et s'il y avait des centres derrière, ce qu'on ne souhaite bien évidemment pas. Le club est suffisamment solide et structuré pour repartir de l'avant. Donc.
Allez, on se fait une petite pause musicale et on revient sur l'ALM Basket. Yes. Avec un A majuscule et un B comme basket majuscule. Merci, monsieur Guillaume de Pickup.
Pas de problème, à bientôt.
Bye bye! dites-nous tout, très cher Guy Moquet.
Le groupe s'appelle Anachronic Electro Orchestra. Voilà, c'est un...
Cabalistic Snare, le morceau.
Exactement.
Ouais. Très bien. On ouvre la page ALM Basket puisque l'ALM est encore en vie pour la course au playoff. Pardon, monsieur.
Still Alive.
Still Alive, exactement. Alors gros match ouais, vendredi.
Ça fait quand même quelques-uns là, de
cette année, ouais,
qu'on vient de voir. Bah, depuis 2015, là, on a eu la chance quand même de voir une montée en puissance, on va dire. Et puis là, depuis l'arrivée de Brandon Peterson, on a vraiment l'impression d'avoir une équipe compétitive. Alors maintenant, il y a du retard. Donc, est-ce qu'on arrivera à gommer le retard et surtout commencer à enchaîner à l'extérieur? Ça va être la grande question. La question va être résolue dans les deux semaines à venir. Voilà, il faut au moins en prendre un sur les deux, voire les deux, pour être en position de force.
Parce que ça se resserre. Mais on va revenir sur le classement.
Voilà. Mais donc, on a vu un match après hier Toulon qui avait été un super beau match, après Monaco qu'on avait eu, après Poitiers aussi où il avait fallu lutter. Là, on a eu vraiment, je crois, un truc qui va faire date dans l'histoire de beaucoup de dans la mémoire de beaucoup de gens.
Rentrons un petit peu vite fait dans le vif du sujet. Bon, il y en a qui nous écoutent, qui étaient à la rencontre ou qui ont lu des articles. Une entame de match tout simplement catastrophique, hein. Tu m'envoies un 0 dévaluation à la fin du premier quart-temps.
0,27 ou 0,29, attends.
C'est-à-dire que
29 dévaluation,
7 pertes de balles.
7 balles perdues, 0 passes décisives.
Ouais.
Une équipe d'antime qui rentre un peu comme était rentré hier Toulon dans son match de façon très très fort en défense, très 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 agressif et très à droite, beaucoup de rythme en attaque, ce qui fait qu'on est complètement submergé. Il y a un petit début où t'as Team Blue, tu vois que lui qui marque les 9 premiers points de l'équipe, je crois, en 4 minutes. Il y a 9-4, je crois, voilà, c'est que des points de Team Blue, dominateur et tout. Et puis tu vois que les Evreux n'arrivent pas du tout à trouver de solution offensive. Michael Var rentre dans le jeu, il n'est pas bon. Et en fait, on se retrouve avec à 6-19
à la fin du premier quart.
6-21, parce que je crois qu'on prend un panier dès la reprise. On se retrouve à moins 18 à la 15e minute. Parce que je pense que c'est là que ça commence. Déjà, l'écart maximal, c'est ça. On se retrouve à 13. Attends, je vois 13-31. Voilà, je crois que ça doit être ça. 13-31.
C'est énorme.
Et là, tu as un tir à 3 points de Guillaume sur un buzzer qui lance l'équipe, qui va commencer à marquer un peu mieux. Ils vont scorer. Ça va se niveler parce qu'en fait, il y a toujours 17 points juste avant la pause. Et là, un nouveau tir sur le buzzer de Glenn Causey. On va se rendre compte que ces deux tirs au buzzer sont des éléments hyper importants. Bah, quand tu sais qu'à la fin, ça joue à 3 points. Mais
ouais,
surtout,
parce que là, on passe à moins 14.
On passe à moins 14 au lieu de moins 17, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et puis, Mamoutou Diarra, là, qui fait partie quand même de la grosse écurie d'Antibes, ancien international et tout, qui dit que ce tir-là fait rentrer l'équipe avec une idée plus positive que leur mi-temps, parce que c'est exactement ça. Ils font une mi-temps où ils sont vraiment largement dominés. Et l'équipe revient, mais alors de façon assez extraordinaire. Malgré deux lancers francs loupés d'entrée par James Pattis, on sent qu'il y a un autre visage qui s'est mis en place à la mi-temps. Alors, ils se sont fait remonter les bretelles. Moi, ce qui m'époustoufle toujours à chaque fois, c'est que, on le sait à chaque fois, on sait que Rémi Vallin va s'énerver, il va leur pousser une gueulante. Je me demande quel mot il arrive à trouver. Il doit avoir un vocabulaire quand même très, très riche.
Je sais
là où il cible, parce que généralement ça se situe au niveau des attributs masculins, donc là je pense que là ça généralement, mais par contre il doit avoir un sacré dictionnaire des synonymes pour trouver à chaque fois des choses un peu différentes, parce que ça marche.
Parce que c'est surprenant quand on s'y attend à se prendre une soufflante que ça puisse avoir un effet quelconque.
Exactement, et puis les gars ils savent qu'ils vont s'en prendre plein la tête.
Donc clairement, troisième carton, 26 à 2,
donc là c'est un record pour Évreux.
Cette année on a vécu un 22 ou un 24-0, un truc comme ça. 20...
Pas 0, je pense pas qu'il y ait eu un 0.
Ou un 20 à 2, vécu ça cette année, ouais. La salle Omnisport.
Mais le 26-2, c'est surtout, il y a eu un 27-0 à cheval, donc avec le 3 points, là, il y a eu 24-0 dans la foulée. Quand tu sais que c'est le même 5 des deux côtés qui reprend le jeu et que tu te retrouves avec quasiment négatif de la première, c'est extraordinaire. Et puis là, surtout le vrai négatif, c'est que on a commencé à chercher Peterson, parce que franchement on l'a oublié au départ, et ça c'était vraiment se priver d'un gars qui est mobile, qui cherche, qui joue pour l'équipe en plus, ça, il est vachement bien. Et puis voilà, puis il y a eu un allant, il y a Léo Konaté qui a eu un passé extraordinaire avec des interceptions. T'as Guillaume qui a été monstrueux, parce que ça, je pense que ça ne transperce pas trop sur la feuille de stats, même si là
il
a
en défense, stats, lui.
Bah il a eu Solomon à un moment, il prend un peu tout le monde, il a eu Mamoutou Diarra, je crois, il peut prendre qui veut, c'est ça qui est intéressant, du 1 au 4, il peut y aller, quoi. Et puis voilà, et puis ça, il y a eu un moment d'euphorie. Avec une salle qui prend feu, bah, comme on la connaît, mais qui, je pense qu'elle était presque, elle n'a même pas sifflé en première mi-temps, parce qu'elle a vu qu'il y avait une domination adverse, qui était plus que la médiocrité de l'équipe d'Evreux, c'était la domination adverse qui a fait. Et là, je pense qu'elle était surprise au départ de voir que on pouvait battre cette équipe-là, tellement elle faisait office d'épouvantail en première période. Et là, t'as un moment qui est vraiment fabuleux, quoi. Il marque 0 points en 8 minutes, quoi. 0 points.
Antibes, on rappelle, 3e, 4e ou 5e au classement.
0 points en 8 minutes, ils marquent leur premier panier.
Ils viennent de descendre de proie, hein, ouais, c'est oublions pas.
Ils marquent, je crois, il reste 1,49 à jouer. Ils marquent ce seul panier, là, un panier sous le cercle. Sinon, ils ne marquent rien, quoi. Et après, ce qui est intéressant aussi, donc Evreux a continué son effort, parce qu'ils sont passés, ils n'ont pas fait que se contenter de recoller au score, ils sont passés devant, ils ont eu plus 12, ce qui est énorme, hein, quand même, prendre plus 12 quand tu as été à moins 18, ça fait quand même un différentiel de 30, c'est quand même assez impressionnant. Et puis, et ben derrière, tu as Antibes qui revient dans le match. Alors, parce que
là, on parle du quatrième carton.
Quatrième carton, voilà. Ouais. Mais là, tu as un type qui recolle dans le match, au point où tu as Will Solomon, ancien joueur NBA, ancien joueur d'Euroleague, qui a 2 tirs à 3 points ouverts, un pour la gang, pour repasser devant à 60-61. Il loupe, faute sur Causé, 2 lancers francs. Causé marque ses 2 lancers francs. Ça aussi, c'est une nouveauté, parce qu'il avait tendance un peu à caguer ses lancers quand il était en fin de match, comme ça. Là, c'est bien, il a progressé, hein, Causé. Il fait encore des conneries, je pense, au niveau de. Il est trop individualiste, des fois il veut trop sauver le monde à lui seul et il va s'embarquer dans des pétrins pas possibles. Mais par contre, voilà, il a marqué ses lancers francs et derrière, tu as encore une possession à 3 points. Je pensais que Evreux allait tenter de faire faute, mais non, il joue la défense. Et tu as Solomon qui a un vrai tir ouvert, et qui loupe encore. Et là, tu as un rebond de Matisse. Et Matisse n'a malheureusement pas concrétisé au lancer franc, parce qu'on pouvait reprendre les.
C'est ce que j'allais dire. Ils étaient importants, ces lancers francs, parce qu'on avait perdu contre
Antibes là-bas. 77, 5 points.
De 5 points, et là, potentiellement, en marquant ces 2 lancers, on égalisait. Voilà.
Et là, il y en a encore un qui est encore super, super lucide, parce que nous, on est tellement dans l'euphorie, même en tant qu'observateur de ce match, qu'on est déjà tout content de voir qu'on va reprendre le match, quoi, les 2 points de la victoire. Et tu as Guillaume Constantin qui va souffler à Matisse de lui dire essaie de t'appliquer pour les marquer, parce qu'il restait 1 seconde 2 derrière, donc peu de chance pour que ça marque, mais le mieux c'était au moins d'en marquer un. Mais surtout, il dit marque les 2, parce que comme ça au moins on égalise au niveau du goal average.
Mini déception quand même pour le coup.
Oh non, pas du tout, je pense sincèrement, je pense pas que ça soit Antibes. Antibes est déjà assuré d'être en
play-off
par rapport à sa victoire en Leaders Cup. Donc
alors, c'est un sport collectif, certes, tu l'as évoqué, Guillaume Constantin fait des choses dans l'ombre qu'on ne voit pas, qui ne sont pas affichées dans les statistiques.
Voilà, il était monstrueux, franchement.
Juste 2-3 choses quand même, mesdames et messieurs, dames. J'aime quand je vois ça dans les récapitulatifs sur LNB. On a le meilleur marqueur en points, Glenn Causé. On a 4 rubriques comme ça qui sont résumées très rapidement. Le meilleur rebondeur, James Matisse. Le meilleur passeur, Guillaume Constantin, 6 passes décisives. 10 rebonds pour James Matisse. Et la meilleure éval, qui n'est même pas l'un de ces 3 joueurs, mais qui est donc ce fameux Brandon Peterson, avec 21 d'évaluation. Donc lui n'a pas surnagé dans une de ces 3 catégories précédentes que je viens d'évoquer.
Il est constant partout.
Mais il est constant partout et il offre la meilleure éval. Et quand je vois ça, moi ça me fait plaisir. Parce qu'en face, c'est Team Blue, meilleur point, meilleur passeur, meilleur éval. Nous, ça a été 4 joueurs différents quand même. Ouais. Et ça, j'aime à le relever, une aparté. Pareil, les temps de jeu, gros temps de jeu, hein, sur 5 joueurs, clairement, Rémi Vallin. Je me pose des questions pour le pauvre Michael Var, moi.
Non, bah, je pense. S'il s'en pose, il a tort, parce que je pense qu'il a vraiment toute sa place dans cette équipe.
Qui a fait meilleur aval 2 fois.
Hein, ça ne lui convenait peut-être pas sur ce match-là. Peut-être qu'il faudra peut-être aussi penser à le réutiliser au poste 3 quand les autres. Babacar Niang et Quentin Jones vont venir, mais bon, je pense qu'ils seront un petit peu à la rue, donc je pense qu'il va surtout rester sur ce poste 4 qui lui convient bien normalement. Bon, non, là il est pas dedans, bon, il a peut-être un petit creux, mais franchement voilà, faut pas s'inquiéter là-dessus.
Deuxième point, pardon, moins de tirs à 3 points. Ça, c'est depuis 2-3 matchs, depuis que d'ailleurs on a Brandon Patterson. On fait un choix différent dans, la prise de position à 3 points, j'ai noté. On tournait des fois une vingtaine de shoots à 3 points, avec en plus une réussite pas très souvent médiocre, hormis coup de feu de Glenn Crozet. Là, ça fait 3 rencontres que nous shootons 10, 12, 13 shoots à 3 points durant la rencontre. Ouais. Là, c'est 11 en l'occurrence sur celui-ci. D'ailleurs, on fait 5 sur 11.
On se rapproche plus du jeu de l'an passé d'ailleurs sur cette fin de saison, là où justement il y avait beaucoup plus de...
Est-ce que c'est pas parce que le secteur intérieur est meilleur
très certainement.
Oui, je pense aussi qu'on on est plus la défense montant, on intercepte beaucoup plus de ballons, donc il y a moins de jeux sur le demi-terrain, quoi, donc on a plus tendance à avoir de la transition et puis de la contre-attaque, donc on peut penser que ça y joue aussi. Puis il y a Lau Konaté qui a une période qui est vraiment très très fort en ce moment, qui a eu droit à une page complète là dans le magazine spécialisé basket hebdo, là où on dit qu'il est prêt pour la Pro A. Ça fait 4 ans qu'il est là,
mais il est prêt,
je pense, je pense qu'il méritera. Par contre, il faudra qu'il soit prêt justement à
le vendre cher,
à accepter le manger. On ne va pas le vendre parce qu'il est
en fin de contrat, c'est en basket,
mais voilà.
Brandon Patterson, est-ce qu'on en sait un petit peu plus sur lui, Philippe? Est-ce que tu l'as recroisé?
Je lui ai parlé à la fin du match. Il est vachement intéressant
parce qu'au-delà des stats qu'il amène, et puis que des victoires depuis qu'il est là, hier on a
perdu
contre Leaders, qui est bon, et il avait un sacré client en face. Ce joueur là,
c'est très bien, c'est que c'est un vrai compétiteur qui est quand il rentre sur le terrain, et je l'ai aperçu deux fois à l'entraînement, et Rémi pour me confirmer ça aussi l'autre jour, c'est que c'est quelqu'un qui, même à l'entraînement, il veut gagner sans vouloir gagner à lui tout seul, c'est-à-dire qu'il reste dans un schéma collectif. Par contre, il remobilise les gars et tout ça. C'est quelqu'un qui adore le basket, qui adore le jeu, donc ça c'est déjà bien. Il traîne pas la savate, il arrive pas, tu vois, on l'imagine déjà. Puis déjà, c'est un bel athlète, faut voir par rapport au Tig qui était quand même le contre-exemple même du sportif de haut niveau à manger ses kebabs à 3h du matin. Là, je pense que là on a
7 d'affilée.
On a 7 kebabs d'affilée. Ouais, il a le record à Rock Kebab.
Je pense que tu meurs.
Il a explosé la carte de fidélité de Rock Kebab. Ça, c'est vraiment un truc. Bon, bref.
Sauce mayo la totale. Je veux les 8 sauces, s'il te plaît. Pardon.
Donc, il a été. T'as un athlète qui est concerné, qui est intéressé par le jeu.
Puis le challenge aussi, je pense.
Le challenge qui est devant lui. Lui, pour lui, voilà, elle a tout à fait adhéré à cette. La philosophie de l'équipe. Et surtout, il est sous le charme du public d'Evreux, parce qu'il m'a dit.
D'accord.
Il m'a dit qu'il n'avait jamais, lui, vécu un match de ce type-là, parce qu'il dit qu'il y a trop, il y a eu trop d'écart de l'un côté. Mais surtout, il dit. Mais le bruit que fait le public te transcende complètement. C'est-à-dire qu'à un moment, il s'est senti porté par le truc. Il savait même plus où on était dans le score. Mais tu vois, il avait continué. Ils ont juste eu envie de continuer. Et c'est ce que disait Guillaume. On ne s'est pas arrêté à juste recoller. On a continué. Et je pense que le public a eu vraiment un rôle essentiel là-dedans. Cette bonne vieille salle qui résonne comme c'est pas possible. Je pense qu'elle a vraiment fait beaucoup, beaucoup de bien encore cette fois-ci.
Ouais. Alors, au classement, c'est totalement quasiment resserré. Bon, le Portel
a gagné contre Boulazac.
Alors, c'est le petit truc moins cool, parce que
même si sincèrement, moi, ça m'embêterait qu'on coiffe le Portel au poteau, parce que franchement, ils font une saison exceptionnelle. Ils vont jouer la finale de la Coupe de France.
Ils ont sorti 3 ou 4 clubs de proie, quand même.
3 ou 4 clubs,
dont l'Asvel,
Strasbourg, pas Strasbourg, l'Asvel,
Limoges,
le Havre. Ils méritent largement.
Et s'ils gagnaient cette finale de Coupe de France, ça leur garantit pas de monter.
Ils n'ont pas encore trouvé le petit truc. Ils vont peut-être y penser l'année prochaine.
Nous, pour la petite histoire, ils vont jouer la même semaine à 3-4 jours près que nous quand on va les recevoir.
Voilà, donc on est peut-être que le match va être décalé d'une journée d'ailleurs. Voilà. Ils ont fait la demande. A priori, alors pareil, ils sont, pour dire à quel point la Fédé, ils sont complètement à côté de leur pompe. Ils ont demandé à ce que le match soit décalé. On leur a dit au départ, ça va pas être possible parce qu'ils ont un autre match important, je crois, qui va suivre le vendredi ou le samedi, donc il fallait décaler 2 matchs, et en fait on leur a dit on avançait un autre, et ils ont dit non mais ça va pas être possible. Donc le président du Portel a dit finalement on ne change rien, on va envoyer notre équipe cadet en finale pour la Coupe de France. Et ça serait quand même assez bon, je pense qu'ils le feront pas, mais imaginez qu'on envoie les cadets jouer contre Strasbourg, l'épouvantail Strasbourg, juste pour dire je pense qu'une fois de temps en temps ça ferait bien un bon pied de nez aux gens qui dirigent c'est la Fédé en l'occurrence, mais c'est vrai que c'est un peu con.
En tout cas, on rappelle que ce sont les du 2e au 9e qui joueront les playoffs. Évreux juste derrière à 10 avec 14 victoires et 14 défaites, donc est 10e au classement. Devant Roanne qui est malheureusement en grosse déconfiture.
Malheureusement, parce que c'est peut-être eux qu'on va pouvoir essayer d'aller repêcher.
Parce qu'on les a battus à l'aller.
Roanne et Orchy. C'est les deux clubs, à mon avis, qui sont maintenant les plus à même. On va jouer à Orchy là-bas le 9 mai. Ça sera certainement, si on est encore dans la course, parce parce que ça va dépendre des prochains matchs. Ça peut être le match clé avec le match du Portel juste avant. Voilà, mais là, en fait, dans la série, de toute façon, voilà, il n'y a plus à
répondre. En tout cas, c'est encore possible parce que tout simplement, il y a trois équipes avec juste une victoire devant nous.
Mais le goal average, les trois ont le goal average. Le Portel a 17 points d'avance. Rouen a le goal average sur nous. Et Orchi n'a qu'un point de retard. De toute façon, il faudra battre Orchi.
Et au-dessus, il y a deux équipes qui n'ont que 16 victoires. Hein, Antibes et Nantes. Alors, Nantes est dans une spirale plutôt très positive.
Antibes, on ne prendra pas non plus. Il y a le goal average aussi. Donc, ça fait 3 victoires.
Il reste 7 journées, 6 journées.
7 journées.
Tout est possible.
Il faut espérer qu'une telle remontée sur ce match face à Antibes puisse contribuer à enfin pouvoir affirmer quelque chose à l'extérieur. Puisque c'est le point noir.
Ils ont gagné Angers quand même la dernière fois. Mais là c'est vrai.
Oui, mais Angers qui est dernier, c'est ça.
Angers qui est dernier, mais qui avait battu Antibes justement. Antibes, ça fait quand même 3 défaites de suite de 2-3 points. Quoi. C'est terrible. Ils ont battu contre des équipes de bas de tableau. Angers, Lille chez eux et Évreux. Enfin, du bas de tableau. Évreux n'est pas de bas de tableau.
Est-ce que la dynamique là, elle peut contribuer? Enfin, faut espérer qu'ils arrivent à surfer sur un comeback comme ça. C'est assez exceptionnel. Hein. Alors, passer du tout au rien, enfin du rien au tout.
J'allais dire que là, ce week-end-là, il y avait une chance normalement a priori où ils pouvaient en profiter à fond, c'est-à-dire qu'ils allaient jouer à Provence, qui normalement devait perdre ce week-end parce qu'ils jouaient à Monaco.
Ils ont battu 20 points à Monaco,
ce qui fait qu'ils se relancent encore. Ils sont qu'à 2 victoires d'Evreux, à 3 victoires des playoffs, et donc eux, ils sont encore dans la course. Donc forcément, ce match-là va être difficile à prendre.
On rappelle coach Rémi là-bas aussi. Mais
on reste sur 2 victoires là-bas, je crois, sur la Provence les dernières saisons, donc ça peut être le déclencheur aussi.
De toute façon, il n'y a pas de secret. Hein. C'est ce qu'on dit depuis presque le début de la saison. Il faudrait gagner un peu plus de matchs à l'extérieur pour faire des séries.
On n'a jamais fait de séries. On a une seule série négative de 3 défaites et on n'a que pour l'instant des séries de 2 victoires. Donc là, il faut à tout prix en ajouter au moins une troisième. Voilà,
Angers à l'extérieur, à Évreux, on a eu le scalp d'Antibes.
Et donc, rappelons le prochain match.
Provence ce samedi. Vendredi là-bas.
Ensuite, Charleville-Mézières qui est en forme aussi à domicile, qui est pas facile à bouger, qui joue sa survie et qui va certainement se maintenir là-bas aussi.
Deux matchs de suite à l'extérieur.
Et ensuite, ensuite la Coupe de France, tout ça, qui va faire une petite pause. Et on rejouera le mardi 5 ou le mercredi 6 à Évreux contre le Portel. J'espère qu'il faudra le redire.
Que ce match-là
aura de l'importance. Et j'espère surtout qu'on saura accueillir le Portel comme il le mérite, parce que déjà, ils ont un public énorme. Et ce qu'ils ont fait là, je pense qu'ils mériteraient vraiment une ovation avant le match. Après, ça sera chacun pour soi, mais je pense qu'ils mériteraient vraiment d'être applaudis.
C'est énorme ce qu'ils réalisent, parce que la différence entre la Pro A et la Pro B est pour moi bien plus marquante encore que la Ligue 2. Ils vont se retrouver contre le Paris Saint-Germain du foot avec Strasbourg qui a une écurie de ouf, Vincent Collet, coach de l'équipe de France, qui est une science. Là-bas, c'est les Dio et compagnie.
Un coach qui ne parle qu'avec ses pieds, parce que malheureusement, le pauvre Eric Girard, il a une canule et il ne peut pas parler. Et pourtant, il arrive à fédérer l'équipe grâce à ça. Il a un super assistant, Jacques Perigual, avec qui il communique, et c'est lui sa voix.
Pourtant, une tête de pioche Girard. C'est pas un client facile.
La maladie déjà fait que voilà, faut respecter ce qu'il fait à côté de ça, et puis quelque part c'est quelqu'un qui sait très bien, c'est un joueur quoi, c'est un mec qui est passionné par ça.
L'ASVEL en demi-finale, c'est quand même quelque chose, hein. D'ailleurs, ça a précipité la tête du coach en l'occurrence.
Pareil, c'était la folie complète là-bas. Moi, on a eu la chance d'assister au match, on s'est pris une doudoune pas possible, mais je crois qu'il y avait 30 points d'écart à la 15e minute justement là, mais le match au Portel avec le public, c'est un public exceptionnel, hein, franchement. Je pense que ça va être à la Halle Carpentier, la finale de la Coupe de France, ça vaudra le coup.
Régulièrement en playoff, nous.
Là, tu auras 5 000, peut-être même 10 000 spectateurs du Portel, une armada verte et blanche, là, ça va être très sympa. Ouais.
C'est bien vrai tout ça. Eh bien, écoutez, c'est dit, c'est fait, merci beaucoup pour cet éclairage, Philippe. On rappelle que dans leur info La Dépêche, dès demain, on aura un article qui prendra très certainement grande place sur cette belle victoire contre Antibes.
Nouvelle page, ouais.
Avec coach Valin, coach adverse et compagnie. Peut-être des joueurs aussi qui s'expriment.
Oui, on a parlé longuement à Guillaume, là. Un bon article de Sébastien, là, qui vient de nous rejoindre, Sébastien Thibault, là, qui a fait une petite interview avec Guillaume, là. Et puis, on a Laou Konaté, Peterson.
On ouvrira le journal demain, se le procure et on le lit. Voilà qui est dit, voilà qui est fait, c'est dit, c'est fait. Gros rendez-vous, on a dit, de rugby ce week-end. On espère une belle victoire à l'extérieur de l'ALM Évreux.
Avant de vous dire au revoir, je voulais vous passer une dernière info. Ce soir, l'équipe de Principe Actif joue son
football
de foot en salle joue son match de classement. C'est à 20h30 du côté de Joliot Curie. Si jamais vous avez envie de... Moi, j'y serai malheureusement pas. Les obligations professionnelles me contraignent de préférer la radio au sport, évidemment. Mais voilà, si vous avez envie d'aller y jeter un œil...
On peut aller supporter cette équipe qui sera peut-être forfait.
Non, elle sera pas
forfait. Corpo,
hein. Non, c'est pas ce niveau...
Challenge of the Town.
Donc on joue, je sais même plus contre qui on joue, tout simplement.
Ni l'horaire, ni
mais
le
en,
lieu.
Mais en tout cas, si, l'horaire c'est Joliot, l'horaire c'est 20h30, c'est au gymnase Joliot Curie, et on joue pour la 9e ou 10e place sur 20 équipes.
Bravo. Ah, ils savent tenir autre chose que les micros.
C'est mieux que l'année dernière, on avait terminé 15 ou 16e.
C'est beau.
Il y a une certaine progression.
C'est beau. Merci Monsieur Guimauquet, merci Phil.
Salut.
Portez-vous bien, mesdames et messieurs, dames. Programme de l'antenne de Principe Actif. En ce jour, on rappelle, hein, c'est une rediff des 15h, Radio Lomax 17-18h. Mixture avec pour thématique...
La peur.
La peur, nous aurons la Factory et It's Time pour terminer. Bye bye, bonne semaine à vous toutes et tous.